podcast depuis longtemps en stand-by, où les micros étaient débranchés, où les gens sur les réseaux s'indignent plus nous entendre.
Bonjour.
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 La saison 2 était pourtant bien partie, mais il a fallu se renfermer. Puis qu'on est déconfiné,
les ciné restent fermés,
dans les rues qui pleurent d'ennui.
Bonjour Romain.
Bonjour Jean-Michel, mon cousin de Perpignan.
Où est-ce que tu vas?
Je retourne à Paris pour le podcast, je viens d'avoir une merveilleuse idée, à base de VOD, de films cultes, de BA.
Très intéressant, Ginette, c'est bon, il se casse.
Discute ailleurs, autour irrévérencieux, et un ordi qui compte les plans.
Ils ne parlent pas notre langage,
ils tournent dans les comptages, c'est vrai qu'ils sont chelous chez Fetabéa.
Bonjour, bonjour. On est de retour.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'en bats les couilles.
Il me faut
un titre et puis la catchphrase. Je veux gagner la rubrique Fais ton titre.
Ah, Romain.
Bonjour. Je rapporte le DVD que je vous ai emprunté.
Comment ça, déjà?
Oui, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre?
Oui, j'ai Prometheus.
Non. Ça ne fait rien, je prendrai... celui-là.
Celui-là, mais tu l'as déjà vu deux fois.
Mais c'est mon préféré. J'aime les films de dinosaures. Plein d'ADN et de...
Ah, vous n'avez pas dit le mot magique.
Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau.
Mais, monsieur...
J'insiste.
Oh, merci. Merci infiniment.
La tête ailleurs avec des rêves plein les yeux. On ne sait plus quoi penser d'eux.
Ils sont toujours l'air absents.
Où ils jouent à Among Us. Quel mystère pour eux que le mot hebdomadaire.
C'est le plus fou des podcasts. Et leurs épisodes m'enchantent. Tu vois, ils ne sont pas réguliers, mais on espère qu'ils le seront à la saison 3.
La tête ailleurs perdue dans leur univers, c'est une bien étrange émission.
Ils sont fantasques et bizarres.
Ils emmergent Jean-Luc Godard.
C'est vrai qu'ils ne ressemblent à personne.
Non, ils ne ressemblent à personne.
Et c'est sans aucun objectif. Vite.
Allez, générique.
In a world.
No, in a world, Jack.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici... me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Poule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa Poule. Encore. Je me fais plaisir, ça faisait longtemps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité, toujours les amis. Mais aujourd'hui, point de Béa, car le cinéma est mort. Le cinéma est mort. Vous m'entendez? Il est mort, le cinéma.
Mais pourquoi tu cites Jean-Luc comme ça?
Non, plus sérieusement, pour cet épisode un peu spécial, nous invoquons les esprits Negmarron de Jackie et Benji, car le temps passe, mais très peu de choses ont changé, vous le verrez. Et pour parler de toute cette merde autour de la culture mise sous scellé, il va falloir que l'on fasse le bilan calmement, en se remémorant chaque instant de cette historique année noire qu'a été 2020.
C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand
Je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier. Les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey.
C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans ce format détente qui va nous permettre de se dérouiller un peu au WD40. Et pour cela, c'est le gratin que j'ai aujourd'hui avec moi, mes compagnons de la première heure qui m'ont fait du pied ces dernières semaines en mode « Oh, t'as fini de déprimer là ? Hein ? Il y a peut-être plus de ciné, mais il y a encore des films. » Et qui dit film dit Béa, et qui dit Béa dit...
Bdouille.
Dis bah on rebranche les micros et puis voilà, alors merde, allez, go, fais ta Béa, ça reprend. Mais pour aujourd'hui, ce sera fais ton bilan.
Fais ton bilan.
J'ai des conclusions.
Avec moi, transition musicale improvisée, magnifique. Avec moi, le leader des jingles, toujours Kevin qui est là, qui est de retour derrière le micro.
Bonjour.
Quel plaisir de te revoir.
Bah, quel plaisir de vous revoir aussi.
Mon bel
je suis très heureux. Oh, je vous rappelle que c'est un podcast et que personne ne se voit. On ne s'est jamais vu en vrai. On ne sait pas à quoi on ressemble.
Erwan aussi qui est là. Bonjour Erwan.
Bonjour à tous et à toutes.
Salut.
Et à chacun et à chacune.
Clément.
Hey, ça fait bizarre de pas avoir d'intro prévu, tu sais, genre.
Non.
Juste bonjour. Ouais.
On fait le bilan, c'est un petit hors série comme ça. Salut. Comme ça, et puis celle qui est devenue PGM à Among Us ces derniers
c'est
temps.
PGM.
C'est Pro Game Master.
Et ouais.
J'avoue, j'avais trop envie de le faire en RP.
Clémence qui est là.
J'ai rien compris.
Bah ouais, fallait venir jouer avec nous.
Allez, PGM en RP, ok. Allez, pas DVZ en bébé.
Reprends un coup de WD40.
Allez, on passe au sommaire de l'émission. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se met le cul en éventail, les doigts de pied en claque balls.
Hop, tu t'es trompé. On se met les doigts de pied en éventail et le cul
en cul de chèvre.
Ok, pardon. Pour débattre autour de cette question inquiétante, mais néanmoins légitime, le cinéma est-il une espèce en voie d'extinction?
Tu fais un animal.
Nous en parlerons, mais nous reviendrons sur 2020, hein, qui est... parfois nous a offert de bons moments cinématographiques et chacun de nous parlera de ces films qui les a marqués, un petit top 3 comme ça, on fera un peu le tour et puis tout simplement nous quitterons en annonçant notre programme, l'avenir du podcast et la façon dont on va s'adapter nous à la crise sanitaire sans précédent qui commence bien à nous chauffer derrière les oreilles. Spoiler alert, vous avez pas fini d'entendre parler de nous. Inch'Allah. Et j'insiste sur le Inch'Allah parce qu'on sait jamais en fait. Bon bref, allez, on prend nos airs sérieux.
Okay,
et on attaque le gros du sujet avec le gros débat de ce début du bilan. Mais avant tout, un jingle improvisé.
Le gros débat de ce début du bilan.
Le gros débat
de ce début du bilan.
Le gros du sujet.
Ok, alors comme vous le savez déjà sans doute, hein, ce qui explique en partie notre absence, cela va faire des mois que suite à la crise sanitaire mondiale, la culture est mise au fer. Plus de spectacles, plus de théâtres, plus de concerts, de festivals et en ce qui nous concerne particulièrement ici,
mise au
plus...
fer.
Oui, excusez-moi monsieur, j'ai potassé mon dico.
Bon, je crois qu'il maîtrise les expressions.
Et plus de ciné, c'est ça qui nous concerne le plus de cinéma. Et cela... J'ouvre les guillemets car il y a des bas.
Ouvre-les.
Pour diminuer le risque d'augmentation de l'épidémie à court terme.
Diminuer le risque d'augmentation
de
d'épidémie
à court terme.
Diminuer le risque d'augmentation. Oui, augmenter le risque de diminution.
Baisser. Est-ce que c'est pas diminuer le risque qui est plus...
C'est pas le débat en fait.
C'est pas ça le débat.
On croyait que c'était ça le gros du sujet.
Non, le gros du sujet c'est moi.
Parce que j'ai ramené mon dictionnaire et tout.
Oui, parce que j'ai pris des kilos.
Mais non, Romain.
Oh,
mais
le gros
non.
du sujet.
Non, bon, j'ai dû amener deux chaises, mais t'étais magnifique.
Ah, le bâtard. Attends, je ravale mon glaire.
Oh voilà. Mon dieu.
Donc en gros, pour...
le glaire du sujet.
Ça se barre en couille déjà. Pour résumer, hein, depuis la fin du deuxième confinement, fin novembre, les salles de cinéma n'ont jamais réouvert. Et ce qui
c'est
a poussé inévitablement à la démocratisation de cet autre mode de consommation de films, le streaming.
Le Blu-ray. T'imagines les salles, elles avaient ouvert, mais t'étais pas au courant.
Putain, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je peux aller voir un film.
En tout cas, au point même que face à l'incertitude d'un retour rapide à la normale, certains grands studios comme Disney... L'Empire ou Warner ont adopté pour l'année 2021 une nouvelle façon de faire. Sortir leurs grands films de cinéma sur le petit écran en plus d'une sortie ciné simultanée quand les conditions le permettront. Mais ça alors, me dis donc.
Ce serait pas un peu une nouille
Donc à force, évidemment, l'inquiétude grandit. Et ici, comme beaucoup ailleurs, ça dit ça? Comme beaucoup ailleurs, ça ne se dit pas.
Si comme, ailleurs.
Bah si, comme beaucoup ailleurs.
Comme ailleurs.
On peut débattre. Beaucoup ailleurs, en tout cas, alors, la liaison est bonne.
Le débat est professionnel.
Partout ailleurs.
Une question légitime se pose. Devons-nous nous préparer à dire adieu à cette expérience qu'est la salle de cinéma. Bref, le cinéma tel qu'on le connaît est-il en voie de disparition ? C'est à vous, vous avez 2 heures.
Alors, je dirais que...
Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord du tout
pour
avec
attaquer
vous,
le gros sujet.
C'est-à-dire que oui et non. Hein. Bon, une question se pose. Hein.
Des vous cinéma en voie d'extinction et d'autres qui ne le sont pas.
Déjà, qu'est-ce que le cinéma ?
Qu'est-ce qu'une extinction ?
Franchement, c'est une question qui est hyper difficile en réalité parce que déjà, c'est quoi le cinéma ? En fait, Erwan, il a raison en fait, quand il pose la question, c'est quoi le cinéma ? Est-ce que c'est la salle de cinéma ou est-ce que c'est le film produit ? Tu vois ? Est-ce que c'est le mode de diffusion qui définit l'expérience ? Un peu, mais pas seulement. Et puis c'est un art qui a quoi ? Qui a un siècle ? Un siècle et demi.
Donc qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Allez,
non,
c'est suivant.
On passe à un autre débat.
Non, c'est pas ça que je dis. Il est voué à évoluer aussi, tu vois. C'est comme la peinture se consomme pas comme aujourd'hui, comme elle se consommait avant aussi, tu vois. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Bah, moi, à court terme, je pense que oui, parce que c'est la meilleure façon que j'ai de profiter d'un film, c'est une salle, quoi. Mais est-ce qu'à l'avenir, ça y aurait pas d'autres moyens de les consommer qui seront aussi bien, je ne sais pas. En fait, je peux pas savoir.
Mais quand tu vois des Warner et Disney qui s'alignent sur les sorties ciné en même temps d'une sortie streaming.
Par contre, ça
streaming.
C'est un problème parce que il y a des gens qui travaillent dans l'exploitation de salles et dans l'exploitation dans les salles de cinéma. Enfin, t'as tout un comment dire. J'arrive plus à parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast.
Ouais.
un écosystème
exactement qui est mis en place et qui moi je pense que c'est important de le conserver quoi, mais c'est compliqué, hein. J'y réfléchis souvent et j'ai pas de solution, quoi. J'ai même pas d'avis tranché, à part le fait que ça me manque d'aller au ciné, quoi.
J'ai l'impression que comme tu le dis, Kevin, du coup, il y a deux choses, il y a l'endroit et le milieu. Le milieu a l'air de bien se porter, il y a des films qui continuent à sortir grâce à Netflix, grâce à Disney+, grâce à toutes ces... Alors après, quelles conséquences ça va avoir sur les films plus indépendants, peut-être les plus petites productions. Ouais. Après, je pense que la question pour l'instant elle se pose surtout pour les salles de cinéma. Est-ce que les salles de cinéma sont toujours vouées à exister ou est-ce que ça va devenir ces sombres sexodromes qu'on trouve maintenant dans des petites ruelles parisiennes qui à une époque
au siège qui colle.
Ouais.
Ouais. Bah, que vont devenir tout ça ? Bah, à mon avis, ça va être les premiers en première ligne, hein, tous les ciné indépendants.
Mais moi, ce qui m'inquiète concrètement, c'est surtout pour tous les films qui devaient sortir et qui sont en file d'attente. Parce que c'est difficile de se projeter plus loin pour la suite, mais déjà concrètement, des films qui devaient sortir depuis le printemps dernier ou à la fin de l'année dernière, dont même on voyait les affiches dans les couloirs du métro et tout, qui avaient toute une promo déjà faite et qui ne sont pas sortis. Et est-ce qu'ils vont disparaître ? Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui ont bossé dessus aussi à chaque fois, quoi.
Il y en a qui continuent de repousser la sortie jusqu'à l'attente d'une réouverture, inévitablement. Mais il y en a d'autres qui sont passés directement en DVD, hein, ou en VOD, qui ont même pas très peu tenu en salle pour ceux qui sont sortis les quelques jours avant la refermeture des cinémas. Donc il y a ce choix-là aussi, puis ça coûte de l'argent aussi de faire patienter un film pour une sortie ciné. Ouais. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent, quoi.
Mais je pense qu'ils sont pour la plupart sacrifiés parce qu'en termes de visibilité, si ça sort direct en DVD, c'est pas la même chose. Et aussi, il y a quand même l'argent qui a été mis dans la promo qui est totalement perdu. Il y a eu beaucoup d'argent utilisé pour rien.
Alors moi, j'ai regardé la vidéo du fossoyeur de film, je sais pas si vous l'avez vu.
Oui.
Donc François Teurel, où il parle justement de la continuation ou pas du cinéma, des salles et tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je le rejoins sur un point, c'est que je pense pas que les salles vont mourir. Par contre, je pense que en fait, comme la société actuellement qui est en train de vivre plein de bouleversements, qui ne sont pas que d'ordre culturel, sociaux ou sanitaire, mais enfin, plein de bouleversements, les cinémas vont devoir se réinventer. Et je pense que la salle va être maintenant une option de sortie de diffusion des films parmi d'autres, ce qui n'était pas le cas avant, puisque avant, typiquement en France, quand tu produisais un film, c'était pour qu'il sorte en salle. Enfin, c'était la seule option possible, en fait. Et maintenant, je pense que vraiment, les producteurs et les diffuseurs vont devoir se poser la question de où sort mon film, et ça va du coup modifier, je pense, des façons d'écrire aussi, des façons de réaliser, peut-être des économies et tout. Mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle. Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, dans le fond, et je pense que vont sortir en salle des films qui auront été pensés pour sortir en salle et dont l'économie dépend de la salle. Et peut-être que justement on aura moins droit à ces blockbusters un peu calibrés dont on commençait vraiment quand même à plus en pouvoir, enfin moi personnellement, et qui vont sortir du coup sur des plateformes aussi parce que les Disney, les Warner peuvent se le permettre. Et du coup moi mon souhait c'est qu'en salle il y ait vraiment des films qui ont besoin de sortir en salle qui sortent, c'est-à-dire des premiers films, des films un peu fragiles qui n'auront pas forcément d'autres moyens de diffusion, et j'espère que la salle va servir à ça. Mais c'est sûr que ça va évoluer, c'est sûr que ça va changer. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? J'en suis pas certain.
Mais après, aussi, peut-être le paramètre qui m'inquiète encore plus que... Parce que moi, je suis d'accord avec toi, je pense que la salle ne va pas mourir et que les gens continueront à y aller et qu'il y aura toujours des films pensés pour la salle et que ça reste le meilleur moyen d'apprécier un film. En vrai, t'es tout seul, enfin, entre guillemets, mais t'es dans le noir, un écran géant, le son de ouf. Personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui a du 7.1 chez lui. Mais moi, ce qui m'inquiète plus avec la démocratisation des plateformes, c'est la conservation des films, en fait. Est-ce qu'on va pas arriver à un moment où il n'y aura plus de copies physiques? C'est-à-dire qu'un film qui... comment on va les... Si on les stocke sur des serveurs, en fait, ils n'existent plus.
Mais ça, c'était déjà un souci. Moi, j'avais vu Storaro, le chef-op de Apocalypse Now, qui en parlait, et qui est un vieux de la vieille, voilà, et qui disait qu'il était très inquiet de la conservation des films, même les films qui sortent en salle, parce qu'il n'y a plus de pellicule, enfin, il n'y a plus de copie pellicule des films. Et lui pensait que le meilleur moyen de sauvegarder un film, c'était la pellicule. Et du coup, ils sont en train maintenant de se poser la question de la pellicularisation des films numériques, parce que sinon il y a un risque effectivement que dans une centaine d'années les films qui sont sortis directement en numérique n'existent plus et soient périmés entre guillemets, et du coup il y a toute une question de la sauvegarde du patrimoine des films qui se pose, mais qui je pense n'est pas l'action prioritaire en ce moment. C'est vraiment sur quoi je regarde un film, en fait. Qu'est-ce qui m'est donné comme option pour regarder un film? Parce que est-ce que regarder Manque sur un téléphone, ça a du sens? Enfin, voilà, ça va être vraiment des choix qui vont être très importants maintenant au niveau des prods. C'est que la question va vraiment se poser de est-ce que, en fait, c'est des téléfilms, sans que ça soit péjoratif, hein, mais est-ce que ça va être des films destinés à être vus chez soi, ou alors qu'est-ce que la salle apporte à mon film? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur la promo aussi, comme tu disais, Clémence?
Et ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, je pense que tu as raison, ça va être une accélération du tri entre films qui sortent en salle et films qui sortent en VOD dès le départ. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça s'était déjà amorcé avant le Covid, et c'était plutôt dans le sens de les blockbusters en priorité, les trucs auxquels croient les producteurs pour tout le monde, grand public, dans les salles, et les films d'auteur plus sur Netflix. Parce que si tu regardes Alfonso Cuarón, si tu regardes Scorsese et aussi Fincher il n'y a pas longtemps, mine de rien, c'est pas que parce qu'il y a eu le Covid, ça, c'est parce que les producteurs y croyaient moins pour la salle et que c'est Netflix qui récupère. Donc moi, j'ai un peu peur que ça soit ça au final, que ce soit pas comme tu disais ou comme tu espérais, les petits films qui doivent être soutenus, et les films d'auteur en salle et les blockbusters à la maison, mais plutôt l'inverse.
Mais après, t'as des aberrations aussi. C'est genre Soul qui sort pas au ciné, moi je trouve ça aberrant.
C'est incroyable.
Parce qu'il y a des plans dedans qui sont pensés clairement pour
l'entrée. Clairement, j'aurais adoré voir Soul au ciné.
Mais même Manque, en vrai. Franchement, c'est un film de cinéma, quoi. C'est un peu dommage de le voir chez soi, quoi.
Est-ce que le risque, c'est pas que des réalisateurs qui étaient au départ quand même assez connus, comme Fincher par exemple ou Scorsese, deviennent encore plus niche pour les aficionados qui les suivent chez eux, quoi.
C'est de plus avoir de choix vraiment au cinéma. Si t'arrives au cinéma et que c'est plus qu'un énorme parc d'attractions gouverné par Disney, Warner, et que t'as que des blockbusters popcorn et que des trucs comme ça, et que tu peux pas aller t'immerger dans un petit film indépendant qui vaut pas deux copecs mais qui est si fort dans la mise en scène, si t'as plus cette expérience là, moi ça me ferait énormément chier.
Mais là vous parlez de films américains, mais le cinéma français il va sortir où? Tu vois, c'est une question qu'il va falloir se poser.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait du cinéma français parce qu'il y avait la place en septembre, octobre chez nous, parce que les États-Unis étaient bloqués et que du coup nous nos sorties étaient privilégiées en salle, c'était bien. Il pourrait peut-être se passer ça. En fait, c'est difficile à dire quand les salles vont rouvrir comment ça va se configurer. Est-ce que ça va être effectivement plus de place pour des choses françaises ou autres et des plus petites choses, pas les gros blockbusters US, quoi. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire bah non, maintenant il faut faire du chiffre, il faut aider les salles, donc là, il faut mettre des gros blockbusters US. Enfin, il faut vraiment décider de mettre ça en priorité parce que tout le monde va se déplacer pour ça, quoi.
Bah là, je suis sur le site Box Office Pro. Je ne sais pas si vous connaissez. Box Office Pro, qui est un site un peu qui relaie les informations sur le cinéma en temps réel, quoi. Et il y a tout un classement des pays, en fait, comment ça se passe chez eux, en fait, Bulgarie, Chypre, tout en Europe, c'est la merde partout, quoi. Tout est fermé. Il y a en Espagne, il y avait quelques séances et tout, mais là, c'est reparti pour être confiné, donc ça referme aussi. Donc c'est clair que pour les productions européennes, il va y avoir un gros problème, parce que si les salles restent fermées, les tournages vont aussi en pâtir, et puis il va y avoir une queue derrière, et il faudra bien trier, quoi. Donc à mon avis, quand ça rouvrira, j'espère le plus tôt possible, il y en a certains qui vont passer à la trappe. Donc on va passer à côté de certains trucs. À quoi vont ressembler les cérémonies des Oscars ou des Césars cette année?
Il y aura beaucoup de films de plateforme, clairement. clairement.
Donc ouais, je vois, Luxembourg, lieu culturel, autorisation à partir du 11 janvier, restrictions,
jauge
limitée.
Oui, mais ça, ce que tu dis, c'est sanitaire, mais c'est... Faut distinguer ça de la culture qui aura... Enfin, ça va forcément réouvrir, tu vois, et qu'est-ce qui va se passer après ? Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on ait des blockbusters français, en fait. C'est-à-dire que qu'on arrête de dépendre de Tenet ou de Avengers, même s'il n'y aura plus Avengers, mais... Et là, c'est un peu ce qui se passe, dans le sens où ils ont annoncé les Trois Mousquetaires et tout, il va sûrement y avoir le Astérix aussi de Guillaume Canet. On aime ou pas, mais c'est cool aussi qu'on se relance dans des films à grand spectacle pour ramener le public en salle aussi.
Surtout qu'on peut le faire, quoi. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on, j'ai l'impression qu'on n'ose pas, mais on a les moyens de le faire.
Est-ce que ça va pas accélérer du coup Parce qu'en fait, j'étais en train de penser à un truc, c'est qu'en fait, le cinéma, là, en fait, le Covid a accéléré quelque chose qui devait finir par arriver, parce que ça arrivait dans la musique, c'est qu'en fait, la digitalisation des contenus, ça devait arriver un jour. Mm. On pouvait pas. Alors du coup, bon, il y a des points positifs, des points négatifs, notamment. Je pense que de toute façon, le cinéma ne va jamais fermer parce que, enfin, je veux dire, la salle, parce qu'on l'a vu dans la musique, hein, il y a toujours un marché pour le vinyle, pour les
affiches,
ou le concert,
le concert et les vinyles et tout ça. Donc du coup, je pense que les cinémas sont toujours ouverts. Après, ça va peut-être trier, ce sera peut-être plus un luxe, ce sera plus pour les personnes passionnées, ce qui est pas forcément mauvais, parce que quand tu vas voir un gros film, parfois, il y a quand même des bolos dans la salle. Ouais, ça va peut-être trier un petit peu, mais
ça manque justement, puis... ça fait partie de l'expérience, l'odeur du popcorn, les bolos qui sont là en train de gâcher ton film pendant que tu vas voir ça deux.
On vous aime, les bolos.
Les gens qui font chut.
Ouais. Non, mais il y a aussi...
On va pouvoir les digitaliser, eux, les bolos. Hein, comment on va faire ?
Il y a aussi peut-être, eu un abus ces dernières années dans le cinéma français de trop de films, en fait. Enfin, tu vois, c'est que il y a des comédies que des fois tu regardes sur Canal+, tu te dis, franchement, j'aurais vu ça en salle, je me serais fait arnaquer. Parce qu'il n'y a aucune plus-value à les voir en salle, en fait. L'image n'est pas bien, il n'y a pas pas un travail sur le son, c'est juste des séries de sketchs ou des trucs vaguement drôles. Et tu te dis, ces films-là, peut-être qu'ils sortiront pas en salle. Est-ce que c'est grave, en fait ?
Ouais, mais t'as raison, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de compte justement, c'est ça le débat. Là, on commence à parler de plus en plus de contenu, en fait. On parle moins de. Quand t'es sur Netflix, tu vas regarder des contenus, tu vas pas regarder un film.
Entre guillemets, c'est
le premier truc qui vient.
Eux, ils raisonnent comme ça,
c'est un contenu. Alors qu'au ciné, moi, j'ai l'impression qu'il y avait encore cette idée, tu vas voir un film. Quand c'est pas un contenu, on te propose une œuvre d'art, tu viens la voir, quoi. Et le risque, à mon avis, c'est que si ça se démocratise trop sur les plateformes, ça soit plus vraiment que du snacking, quoi. Genre, je vais snacker un film comme ça qui a un contenu et puis après je vais l'oublier le lendemain, quoi.
Ça dépend, parce que l'humain est plein de ressources, tu vois.
T'es beau.
Moi je fais partie de ces rares personnes, c'est-à-dire la seule personne au monde à avoir vu Interstellar sur mon téléphone.
C'est audacieux, je vais pleurer.
Alors, dans un train.
Alors, c'est comment ?
Dans un train,
ça se trouve, c'est énorme.
Avec une pause parce qu'il y avait un changement.
À Marseille.
Et au final, voilà. Fin,
sur des pines.
C'était le genre de comment dire pas d'immondice, mais genre de sacrilège.
De sacrilège, ouais. Hérésie.
Voilà, d'hérésie que je pouvais faire parce que le lendemain, t'allais au ciné, t'allais voir un autre film. Bon. Là, maintenant qu'il n'y a plus de cinéma, c'est un truc tout con, j'ai changé de télé. Enfin,
le lendemain, t'allais voir Camping au ciné. Tu regardais Interstellar sur ton portable et t'allais voir Camping au ciné.
C'est un amoureux du cinéma.
Je soutiens le cinéma français.
Non, je te comprends si t'as pris une grande télé pour pouvoir profiter. Nous, on a fait
ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens, quand même, ont de la ressource et vont peut-être améliorer leur confort de visionnage chez eux.
C'est quand ils ont annoncé Warner et Disney qu'ils allaient sortir leurs films en même temps, ils allaient sortir au cinéma et en même temps en streaming. Sous les articles, les commentaires, ils étaient quand même assez positifs. Tout le monde était en mode cool, j'ai plus besoin de me déplacer, enfin, machin, nanan, fini la galère. Mais en fait, si tout le monde part dans ce sens-là, les salles de cinéma, en soi, ça va devenir une espèce de luxe.
De toute façon, tu vas pas regarder Dune chez toi, on est d'accord.
Non, mais voilà, il y a des films.
Ça dépend des films.
Mais
en fait.
Je trouve que c'est représentatif. Si des gens disent, ouais, cool, je vais plus pouvoir me déplacer, c'est qu'on est en train de se faire wallifier, quoi. Franchement, c'est ça, c'est Wally, ça devient vrai. Ouais.
Wally. Mais je trouve qu'au-delà de la qualité d'un film ou de son genre ou de l'aspect technique de réception du film par un grand écran ou quoi, la salle de ciné, c'est une expérience collective. Et même quand c'est pour aller voir Camping, de toute façon, c'est ça le vrai bonheur et le vrai plus de la salle de ciné, c'est d'être à côté des autres gens, même quand ils sont insupportables, ou de partager vraiment avec des inconnus du rire, un moment de lourdeur et d'émotion, tu le sens, toi, dans
c'est
l'air.
Ça, c'est
quand
l'émotion
t'es
dans qui se propage, quoi.
Alors ça, tu peux le vivre avec ton coloc à la maison, mais vous allez être que deux, ou avec
pareil,
des amis, mais c'est pas
ou
pareil.
Ou trois en cas de trouble.
Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça te laisse le choix, tu vois. Il y a des films que t'as envie de voir seul, il y a des films que t'as envie de voir en groupe.
d'accord.
Il faut qu'on ait le choix. Il faut
moi,
que personnellement, existe encore. Oui.
Camping au cinéma, non, je préfère le m'en délecter tout seul sur mon canapé.
Tout ce qui est auteur comme ça, il faut être seul.
Mais peut-être que voilà.
D'ailleurs, Fabien Antoniente a sorti son film qui devait sortir au cinéma, Vegan et compagnie, sur France 3, c'était ça.
Ah bon.
Ouais.
Sur France 3 Plus.
Ouais, qui était d'ailleurs le pitch était magnifique.
Ouais, c'est quoi, c'est Daniel
avec
Lecaille,
Didier Bourdon.
Non,
c'est
quoi Vegan et compagnie.
Didier Bourdon qui doit accepter que son fils ou sa fille est devenu vegan alors que lui c'est un boucher de renom.
En fait, c'est un boucher paysan basque et son beau-fils, le mec de sa fille, qui ils vont se marier, ben il est vegan.
On n'a pas pu voir ça au cinéma.
Non, mais c'est important de parler des vrais sujets sous une forme humoristique dans la comédie française, c'est important. Bref.
Moi, pour faire un vœu pieux, j'aimerais qu'il y ait aussi des plateformes françaises qui se développent déjà. Et je pense aussi qu'on va vachement vers des plateformes de niche. J'aimerais trop ça, tu vois. Genre une plateforme de films asiatiques, tu vois, où tu sais qu'il y a tout, même des films des années 30, 40 et tout, que tu vas pouvoir trouver pour genre 4-5 euros par mois, tu vois. Et je pense qu'on va tendre vers ça, c'est-à-dire multiplier les abonnements à plein de choses un peu niche quand on est cinéphile, hein, je veux dire. Parce que Netflix, Amazon et tout, c'est sympa, mais c'est quand même super mainstream. Il y a vraiment de tout et tu peux pas trouver des films très précis, même pas forcément des trucs super pointus, mais là, moi, en ce moment, je suis en train de me faire tous les films de Gus Van Sant. J'arrive pas à trouver certains de ces films, tu vois. Et je pense que ça, il y a un vrai besoin de combler cette attente-là en termes de plateforme. Et je pense qu'on va arriver vers ça. Et je pense pas forcément que ça nuise aux salles qui, elles, vont amener tout ce qui est nouveauté, en fait.
Ouais, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a déjà des plateformes comme ça. Il y a Shadows, par exemple, pour les films d'horreur, enfin le fantastique. C'est une plateforme française, il me semble. Où c'est des films de patrimoine, entre guillemets, dans le sens où ils sont déjà sortis, hein, mais d'horreur, fantastique. Donc c'est vraiment thématisé, quoi. Donc c'est. Ouais, ça pourrait être une bonne idée qu'ils fassent un truc comme ça.
Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre parce que du coup, tu vois, il y a plein de points positifs au fait qu'on numérise de plus en plus, qu'on vienne partager un maximum de contenu sur les internets. Il faut, je pense, et là, je m'adresse à Emmanuel Macron. Et
grands, il est occupé avec McFly et Carlito, frère. T'as pas le temps.
Non, mais il va falloir légiférer tout ça et faire en sorte que le cinéma garde la primeur toujours des films, des films en sortie et qu'on puisse après, par contre, les retrouver assez vite sur les.
Ouais,
sur
c'est
les,
ça. Il faut pas oublier que c'est un patrimoine culturel français, qui est une invention française et c'est quand même. Après, c'est normal qu'une invention.
Mais quand on tourne dans tous les pays,
le
cinéma, maintenant, c'est
oui,
global.
Voilà,
hein.
C'est devenu mondial, c'est universel. Mais c'est normal que le progrès d'une invention s'adapte aussi à certaines méthodes de consommation, à son époque. Mais il faut qu'on puisse avoir le choix, quoi. Moi, je pourrais pas vivre dans un monde où je peux pas aller au ciné. Là, ça va faire 3 mois qu'on n'est pas allé au ciné. En temps normal, je me fais à peu près 3 films par semaine. Et là, d'en avoir fait aucun en 3 mois, je vous jure, ça me gratte, quoi. J'ai des croûtes.
Après, c'est vrai que c'est quand même.
Alors, il y a certains sexodromes qui sont toujours ouverts.
C'est pour ça que j'ai des croûtes.
C'est vrai qu'au fond, tout à l'heure, je disais que le cinéma, c'est voué forcément à évoluer parce que c'est un art récent et tout. Mais après. Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier qu'au fond, à l'origine du cinéma, c'est un art forain, quoi. C'était un art où les gens ils venaient regarder. C'était une expérience dans une salle où ils voyaient une projection sur une toile. C'est un peu à la naissance de la chose, quoi. Donc c'est vrai que ce serait dommage que ça se perde.
Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'on va revenir vers ça, tu vois. C'est que les grandes chaînes de cinéma, c'est cool. Ils passent tous les films. À Châtelet, tu as 35 salles. C'est super, tu vois. Mais je pense qu'on va revenir vers des cinémas associatifs, indépendants, trucs de quartier et tout, qui ont peut-être des jauges plus réduites, qui passent peut-être un ou deux films, qui prennent moins de risques financiers, mais qui peuvent peut-être se rentabiliser plus vite, tu vois. Et je pense notamment, parce qu'il y a un très bon numéro de SoFilm qui est sorti récemment et qui parle notamment d'écologie au cinéma, ce qui devient un très gros sujet actuellement. Et il y a un réseau de salles que je connaissais pas qui s'appelle Utopia, qui a 7 salles en France. Et ils sont en train d'ouvrir une salle dans la banlieue de Troyes. Et il n'y avait quasiment pas d'offres à part un espèce de complexe avec plein de salles, mais un truc un peu déshumanisé et tout. Et ils sont en train d'ouvrir le premier cinéma éco-responsable de France. Et François Barouin, qui est le maire de Troyes, leur a mis des bâtons dans les roues, mais laisse tomber quoi. Ouais. Et là, ils viennent d'avoir le permis de construire. Et donc, ils sont trop contents et tout. Et voilà, je vous invite à aller voir parce que c'est un projet où il y a eu un crowdfunding et tout. Et voilà, tout va être éco-responsable.
Et de
tout
quelle
ça.
Manière ça va être éco-responsable?
Plein de choses. Il va y avoir des toilettes sèches. Ils utilisent la pente naturelle du terrain pour faire les gradins de la salle. Enfin, après, j'ai pas tout étudié, mais.
Le popcorn est recyclé. recyclé.
Le popcorn, c'est la terre.
Non, mais récupère les popcorn.
La toile est en papier recyclé.
Et avec une vraie programmation aussi à réessayer et tout. Apparemment, ils ont déjà donc 6 autres salles, notamment dans des lieux un peu atypiques. Genre, il y a une salle dans une ancienne église et voilà. Et je pense qu'on va revenir. Alors, ce sera légal ou pas d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Et on va revenir, je pense, à des vidéos, des ciné-clubs, des trucs comme ça, parce qu'on a besoin de liens. Et en même temps, on est limité en nombre. On peut pas être 100 dans une salle sans masque. Et donc, j'espère qu'on va revenir vers des petites initiatives comme ça et qui vont nous rassembler, quoi.
Ciné-zadiste. Hein.
Après, voilà, la question que je voulais vous poser aussi pour clore un peu le débat, c'était, vous trouvez pas ça injuste que les salles de cinéma soient fermées alors que Zara, H&M et tous les centres commerciaux sont ouverts?
Alors les centres commerciaux sont fermés maintenant.
Oui, ok,
mais,
d'accord, certains
sont
fermés.
Mais après, t'as raison. Alors ça, c'est, par contre, ça, on va rentrer dans les sujets qui énervent. Là, on va se mettre en colère, c'est le moment. Là.
Ouais,
on enfourche le tigre.
Attends, c'est un coup de gueule?
C'est un coup de gueule.
Okay. Ah, on a déjà une gueule pour ça. Le coup de gueule.
Non, mais après, je pense qu'on a tous les mêmes. C'est que dire, voilà, les lieux de culture où les gens se réunissent, c'est vrai qu'il y a une densité de population qui vient dans les lieux de culture, que ce soit le cinéma, les salles de concert.
Les musées,
enfin, etc. Ouais, il y a des gens, ok. Mais dans le métro, il y a des gens aussi, tu vois, si tu vas par là. Et puis dans le métro, personne respecte les gestes barrières, tout le monde est collé et tout.
Il n'y a pas de film.
Là où au cinéma, tu peux faire un
film. Mettez des films dans le métro.
Non, mais en vrai, tu peux totalement continuer à faire vivre la culture avec les musées ouverts, les cinémas ouverts, mais avec des mesures comme ils avaient fait avant. C'est-à-dire,
ça
voilà, t'as un siège d'écart entre chaque personne, tout le monde a son masque. Puis voilà, tu vois, je veux dire, là tu les punis, tu es en train de détruire tout un secteur, même ouais. La restauration d'ailleurs.
Le théâtre, le spectacle, la restauration, bien sûr, on n'en parle pas, mais parce qu'on est ciné, mais oui, on pense aussi aux restaurateurs qui, pour eux, ont plus respecté déjà des règles sanitaires de base, alors en rajouter, ça change pas grand-chose.
En fait, tu te rends compte que c'est hypocrite, en fait. Tu peux pas dire, écoutez les gars, prenez le métro, allez bosser. Et par contre, après vous rentrez chez vous à 18h, vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas au resto.
Allez faire vos courses, allez vous entasser avant 18h dans le plus proche Leclerc. Et puis,
mais le truc, c'est ce que tu décris, Kevin, c'est le fantasme de beaucoup de chefs d'État. Hein.
Bah,
la dictature.
Pas de loisirs, tu vas bosser, tu rentres chez toi, tu fais pas chier, quoi.
Bah oui, mais c'est ça qui m'inquiète.
Un grand homme avait pensé à ça à une époque.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que c'est même pas un plan qui est voulu, c'est pas genre les grands méchants, genre ils vont faire que travailler. C'est qu'on arrive à des conséquences orwelliennes sans les raisons qu'il y avait dans le roman d'Orwell, tu vois.
Oui, juste par pur mépris.
C'est,
genre
c'est juste la conséquence, c'est la même, mais en fait la raison est débile, quoi.
Mais parce qu'en fait, il faut trouver un fautif dans une crise en fait où il y en a pas. Enfin, s'il y en a un, c'est ce petit con qui a mangé un pangolin à un moment, tu vois, mais...
on non, va le retrouver, on va le fumer, lui.
Ouais, mais en vrai si tu penses,
c'est le marché
bien,
noir, c'est le braconnage, mon gars.
C'est malheureusement, c'est la nature qui se retourne contre nous, voilà. Le Covid nous est tombé dessus. Bah, il faut un fautif.
Moi,
il faut
je
fautif
trouve ça extrêmement injuste.
Complètement injuste.
Et ils se disent, bah tiens, voilà, c'est ceux qui vont payer, ça va être l'économie, ça va être plutôt les cinémas, les musées, tout ça. Alors que finalement,
mais c'est de l'économie aussi. Je suis désolé. La culture, ça fait partie de la richesse. À mon avis, c'est même plus important, en tout cas dans l'esprit humain, j'ai l'impression, que la richesse monétaire, la richesse culturelle, c'est ça qui fait l'identité d'un peuple et d'un pays, quoi. Enfin, je veux dire. Et puis,
Roselyne, elle s'en bat les steaks, hein. Disparu des radars.
Je sais pas, c'est hypocrite parce que n'importe quel patron, il peut faire un papier en disant, mais toi, c'est bon, tu peux rentrer après 18h ou tu viens au travail.
On le voit tous les jours, ouais.
Mais dans ce cas-là, ça sert à rien, les gars. En fait, vous faites des mesures qui sont pas des vraies mesures.
Ah, et puis surtout que c'est dans une salle où tu ne bouges pas, c'est pas comme le métro où tu vois des gens il y a pas une rivière de gens, quoi, t'es pas dans le courant des gens, ou bien à Zara, ou bien c'est incroyable, tu vas à la Fnac, t'as plus de chances d'être contaminé que si t'allais voir un film.
Oui,
c'est...
je crois que clairement les chiffres dans les salles de ciné quand elles étaient ouvertes en septembre, ça allait, en fait il y avait pas de contamination, hein.
Ah, moi ça me rend dingue.
À la limite, les restos, les bars, oui, tu vois, t'enlèves ton masque pour consommer, c'est sûr que c'est plus discutable en vrai en termes de proximité.
Non, mais
c'est sur ça, c'est pas le genre d'entreprise sur lequel l'État gagne de l'argent, donc c'est horrible à dire, mais on est dans une société où aujourd'hui on préfère vendre des voitures que vendre des films, quoi. Enfin,
c'est ça, ils ont sûrement choisi de laisser ouvert ce qui rapporte le plus.
C'est pas très très honorable, surtout venant de la France, quoi, qui est censée être le berceau culturel, artistique et compagnie. En tout cas, le Conseil d'État, il s'était clairement attaqué à cette atteinte aux libertés, hein, on peut dire ça comme ça, à l'encontre du gouvernement, et ils avaient dit la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés, alors que les protocoles sanitaires mis en place permettent de réduire le risque de transmission du virus. Et ils ont ajouté, le seul fait qu'une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d'autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte.
C'est très bien que t'en parles.
Non mais c'est vrai. Mmh. Mais tu vois, il y a d'autres choses. Vous vous rappelez ces images où chez Leclerc ils avaient barricadé les rayons bouquins en mode vous n'achèterez pas de livres.
Ouais, mais ça c'était une guerre. C'était une guerre économique. C'est
1984.
Parce que
oui, c'est une guerre économique. Mais tu vois, mais le symbole que ça renvoie en fait.
Mais c'est pour ça que
l'image que tu gardes.
Vous, moi, je vois une volonté politique.
Ça, c'était
vraiment
différent.
Ouais. Vraiment
c'était...
De, ah oui, non, mais de barricader la culture.
Non, mais c'était différent. C'était en soutien. Enfin, en soutien. C'était pas en soutien. C'était en une punition parce que les libraires.
Je suis
tellement
débile.
Non, mais je suis d'accord que la raison entre guillemets de leur point de vue, elle justifie. Mais n'empêche que l'image et le message que tu renvoies, c'est pas ça. En fait, c'est ça qui est important parce que toi, t'es citoyen, le message que t'as, c'est des livres barrés, quoi.
Ouais. Oui,
c'est
au
ça
lieu,
que t'as, en fait.
Au lieu de dire, bah écoutez, d'accord, les petits libraires sont fermés, donc du coup, la FNAC va fermer, ils vont dire non, bah dans ce cas, la FNAC va fermer son rayon livre. Donc c'est vraiment montrer que, en fait, la littérature, le cinéma, la musique, tout ça, en fait, ça ne compte pas, quoi.
C'est assez fou. Quelle année 2020 on a vécu quand même. Et bien, j'ai l'impression que c'est pas fini, même si on a changé de
chiffres. Ah, 2020
n'est
pas
fini. Non, mais 2021,
bah, on est en février.
Enfin, en tout cas, mais il y avait quand même des belles choses.
Et par contre, on s'est rattrapé sur les achats de Blu-ray et DVD. Hein.
Ah oui, ça c'est
ah,
clair.
Ça, on a acheté. Ouais. On profite sans parce que
bientôt,
c'est
redevenu très, très
matérialiste.
Dans 20
ans, il
n'y
en aura plus. Hein.
Moi, j'ai fini Netflix, perso.
J'ai fini Netflix. j'ai fait Netflix en NG+.
J'ai eu un succès à la fin. J'ai platiné Netflix.
Vous avez même vu tous les films de Bollywood. Waouh.
En tout cas, bon, 2020, c'est vrai que c'était pas la plus glorieuse des années, mais il y a eu quand même du cinéma parmi tout ça. Et je vous ai demandé quand même de mettre en avant les films qui vous ont marqué dans un top 3 que chacun vous allez nous présenter. Top 3 des films de l'année 2020, même si on a eu un peu moins que d'habitude, en tout cas, ou certainement certains qui sont passés inaperçus à cause de toute cette merde. Vous avez pu sauver quelques films. Commençons par tiens, Clément.
Alors, mon top 3, je pars du 3, tu sais, je fais genre comme sur YouTube. Mon troisième film, c'est Madre de Rodrigo Sorogoyen, que j'ai adoré, qui est un film super ambigu, un peu amoral, et avec une fin qui laisse un peu songeur. Et Sorogoyen, c'est lui qui avait fait El Reino et...
Que Dios nos perdone,
et c'est un réalisateur vraiment à suivre, très très fort, très dans le plan séquence, très bon directeur d'acteur, et j'ai très hâte de voir sa série sur Canal+ qui s'appelle Antidisturbios, qui parle de la police anti-émeute à Madrid, et apparemment c'est une tuerie. Je pense que ce réal va niquer le game dans les prochaines années, ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il aille à Hollywood. Et vraiment, Madré, super film, ça se passe en France. C'est une femme, une mère de famille qui perd son fils. Enfin, son fils disparaît au début du film. Et elle pense le retrouver adolescent. En tout cas, il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Et c'est très, très bien. Mon deuxième film, c'est Light of My Life.
Ah,
c'est
oui,
mon gros coup de cœur de 2020. Film de Casey Affleck. C'est son deuxième film et incroyable, donc un survival après la fin du monde où Casey Affleck doit s'occuper de sa fille et on en vient à se demander qui s'occupe de qui
dans un monde où les filles n'existent enfin
oui, c'est la dernière oui, exactement c'est la dernière femme sur terre,
c'est la dernière femme sur terre, voilà.
Et enfin c'est incroyable, la photo est magnifique,
il la protège, c'est fou,
ça, c'est un film magnifique,
ça fait écho avec mon top aussi.
Et mon number one, c'est Drunk. Je vais pas redire les raisons. Vous irez écouter le match retour.
Combien, Clément?
47.
43.
Ah.
C'était la bonne dizaine.
On n'est même pas à 47, on est à 44.
Non, mais Drunk, voilà, énorme coup de cœur.
Drunk qui est aussi le top 1 de Kevin.
C'est vrai.
Eh oui.
Mais je commence par le 3, moi. Non,
commençons par le 3, mais voilà.
J'ai spoilé.
Ouais, j'ai spoilé. Oui. Après, alors, Drunk, c'est sûr qu'il n'y a, a pas eu débat sur la qualité du film.
C'est vrai. Et ben moi mon troisième bon après c'est dur, moi j'ai toujours du mal à les classer en fait, mais bon on va dire que mon troisième ça serait plutôt Adieu les cons de Jean Castex.
Avec Jean Castex
avec Jean Castex oui voilà, petite si vous ne le savez pas, vous mettez une perruque à Jean Castex, ça fait Bernie.
C'est vrai. Maintenant quand j'ai vu ça sur internet,
donc
ça,
Albert Dupontel
ça,
ouais, donc Adieu les cons qui est le dernier film d'Albert Dupontel avec Virginie Efira dans le rôle principal et lui-même d'ailleurs, qui est un super film qui est en gros l'histoire d'une mère qui a abandonné son fils sous X et qui aimerait le retrouver, et elle veut le retrouver avant de mourir parce qu'elle est atteinte d'une maladie très grave et elle a que quelques jours à vivre en fait, et elle se fait accompagner par Dupontel, qui est un espèce de bureaucrate informaticien qui a raté sa tentative de suicide. Mais du coup, oui, c'est une tentative, donc il l'a raté.
sans qu'il ne s'est pas suicidé. Et voilà, donc c'est une espèce de road movie, on dit, enfin citadin, avec plein de rebondissements, de l'humour, de la tendresse. Enfin, c'est du Dupontel pur jus, c'est génial, il faut le voir. Et c'est d'une inventivité visuelle sans pareil, quoi.
J'ai hâte de voir ça, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps de le voir, quoi. Ils ont fermé les cinémas
Franchement, et Dupontel, il continue de prouver qu'en France, si on met le budget et qu'on laisse le budget à des artistes, quoi, on peut faire des grandes choses, quoi.
C'est vraiment quelqu'un d'intelligent, en fait, quand tu l'écoutes, Dupontel, c'est assez fou. Et Adieu les cons, c'est à la même place. Pour Clémence et Erwan aussi.
Yep.
Ouais, bah voilà. Et on a que des points communs.
En même temps, il y a trois films qui sont sortis en 2020.
On a juste changé l'ordre.
En top 2, bah, top 2, c'est un documentaire. C'est Un pays qui se tient sage de David Dufresne.
De Jean Castex avec Jean Castex.
Il n'y avait pas Jean Castex à l'époque.
Ça peut marcher aussi.
Il n'était pas là. Donc il revient sur les manifestations des Gilets jaunes et sur les violences policières. Qui malheureusement ont brisé pas mal de vies, quoi. Ils ont éborgné beaucoup de gens. Je sais pas si je peux trop en parler, parce que, à mon avis, c'est vraiment un film qui doit se vivre. Il faut vraiment le voir.
Ouais, je me rappelle que à ta sortie de séance, tu étais chamboulé. Ouais, ouais.
T'as vraiment des séquences, c'est du film d'horreur, quoi. Sauf que c'est pas de la fiction. C'est la vérité. Voilà. Bon, je pense que c'est important de les voir, surtout pour les gens qui disent ils font chier à bloquer les ronds-points, les gilets jaunes. Regardez ce film, vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce qu'est la violence et quelles sont les conséquences sociales d'une violence systémique et pourquoi on en arrive là, quoi. Donc voilà, c'est important de le voir à mon avis. Et mon premier, sans surprise, c'est Drunk. Parce que Drunk, c'est incroyable, What a Life.
Parce que t'aimes l'alcool aussi.
Parce que t'aimes boire aussi.
Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les titres de mon top, c'est vraiment mon année 2020.
J'avoue. J'étais bourré. Un pays qui se tient sage, adieu les cons.
Voilà.
Tout fait sens.
Voilà, c'est parfait, c'est cohérent.
Si vous voulez entendre plus de choses sur Drunk, je vous invite à écouter l'épisode où on se fait la BA, donc le 43, et le dernier épisode qui est sorti pour nous au mois d'octobre ou novembre, ça fait un moment déjà, qui parle de Peninsula, mais le match retour porte sur Drunk, donc vous avez nos avis là-dedans. Clémence !
Oui.
Oh, on va changer de registre avec toi parce que tu as parlé d'un film qui est sorti il y a longtemps, mais qui est sorti en 2020.
Ouais. En fait, j'avais pas vraiment fait le classement entre mes trois. C'est vraiment mes trois chouchous, quoi.
Ouais.
Top
donc, en effet, toi, tu penses à Jojo Rabbit.
Effectivement, oui.
Alors, Jojo Rabbit qui reste pour moi vraiment un chef-d'œuvre. On l'a vu en début d'année. C'était dans un de nos épisodes aussi. On l'avait fait.
On l'avait fait. Épisode combien, Clément ?
32.
31. Ah. Mais le match retour est en 32, donc t'as un peu raison.
Et je crois qu'il a même été oscarisé. Il a eu quoi déjà, Taika?
Meilleur scénar, non? C'est pas ça.
Meilleure adaptation.
Ouais. Meilleure adaptation, oui, parce que c'est une adaptation de roman. Bah ouais, c'était vraiment, vraiment génial. Une ode à l'imaginaire et à l'enfance dans un contexte de guerre ultra violent. C'est un film qui fait du bien tout en étant hyper dur. Mais voilà, tu restes vraiment à hauteur d'enfant. Et moi, j'adore ça. C'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde.
J'ai les poils.
Ultra sensible.
Très, très beau film, Jojo Rabbit. Intelligent. Ouais. D'une intelligence rare.
Ouais.
Et drôle aussi, en même temps. Il faut pouvoir faire rire.
Ouais, il mêle plein d'émotions. C'est fort. Sinon, j'avais aussi Adieu les cons, parce que j'adore le cinéma de Dupontel. Donc forcément, on a sauté dessus avec le colloque.
On a sauté dessus.
Et après, vous êtes sauté
film,
dessus.
C'est aussi un film qui fait. Bah, du tout.
On les colloque.
Il partage juste la taxe d'habitation, hein, pas le lit.
C'est tout.
C'est un film qui fait du bien parce que c'est un doigt d'honneur aussi, qui a du panache, qui est entier, généreux, avec aussi des beaux moments d'émotion, mine de rien. Bon, Kevin l'a pitché, mais il y a plein de personnages secondaires qui sont ultra touchants, notamment un vieil homme sénile.
Aveugle.
Non,
parle du vieil homme sénile.
Le vieil homme sénile, un vieux docteur dont ils essayent d'écrypter une ordonnance, l'écriture et tout, et qui à un moment retourne chez lui alors qu'il était en hospice et qui retrouve sa femme. Et
ça raconte pas tout le film.
Moment magnifique. C'est vrai, je suis en train de spoiler, c'est ma spécialité.
Vous donnez envie, moi j'ai trop envie de le voir.
Qu'aurait été interprété par Jean-Luc Bidault s'il était toujours en vie, je pense.
Jean-Luc Bidault.
Pourquoi c'est
Jean-Luc Bidault, professeur Strauss.
Non, il est mort.
Bah ouais.
Mais non.
Bah si, il y a 2 ans, je crois.
Mais sans déconner.
Si.
Ah merde. Bon,
je sais pas qui
c'est.
Bon, stop, on arrête là.
Professeur Strauss dans
Arrête, on fait une spéciale.
en gros,
breaking news.
Il aurait été parfait dans.
Jean-Luc Bidault est mort il y a 2 ans. Fin de la breaking news.
Breaking news. En gros, si tu vois pas, Clémence, il aurait été parfait dans le rôle du docteur sénile.
Mon troisième film, c'est Relique. Et là, je pense que personne de vous ne l'a vu à part mon coloc, encore une fois.
Oui.
Big up. Bisous, comme diraient les autres.
Bon.
Alors,
je vous rappelle que vous partagez que la taxe d'habitation, s'il vous plaît.
Et la drogue aussi, apparemment.
On l'a trouvé, un petit dealer en bas de la rue, frère. C'est de la bonne.
C'est devenu un poteau.
Bisous, comme dirait l'autre.
Non, pas de ça.
Tout le monde dit ça.
Non, mais on, je vois la référence.
Relique, ça ne vous dit rien, j'en suis sûr.
C'est ça, c'est moi, je l'ai vu.
Oui.
Avec une vieille.
Ouais, c'est
exact, Emma.
On ne dit pas une vieille, on dit une dame âgée.
En fait, c'est fascinant parce que j'adore Jojo Rabbit, qui est une ode à l'enfance, et j'adore Relique, qui est une espèce de film d'horreur déchirant sur le déclin et le fait de mourir, de vieillir et de mourir. Donc, c'est vraiment.
Et réalisé par une femme, Nathalie
oui.
Erika James.
Exactement, et c'est son premier film, et c'est ultra impressionnant pour un premier film. Vraiment,
ouais,
allez à
bon
suivre. Je
film.
Vous le conseille à 100%. Je pense qu'il est assez passé inaperçu dans l'année ciné, mais vraiment, c'est un de mes frissons horrifiques là.
Il est sorti juste avant le confinement en fait, juste avant le deuxième, il me semble.
Ouais,
il est sorti en septembre.
Près,
ouais, mais je crois une semaine après,
ouais.
C'était le confinement.
C'est le troisième
et en fait, j'avais pas eu un frisson existentiel et horrifique aussi fort depuis A Ghost Story.
Oh, ça va me plaire.
Tu
alors.
Vois, voilà, Clément, tu vois.
D'accord.
Parce que vraiment, ça parle d'un truc tu vois, hyper profond. Et en gros, le pitch, je veux le dire quand même pour donner envie aux gens, c'est trois générations de femmes, la grand-mère, la mère et la fille. Donc la fille, elle est jeune, quoi. Elle a entre 20 et 30 ans, la mère a 50 et la grand-mère, elle a 80. Et,
classique.
En fait, ça commence tout de suite avec une scène ultra horrifique, ultra flippante. On est dans la maison de la grand-mère et elle voit quelque chose. On voit son salon dans la pénombre avec juste le sapin de Noël qui clignote. Et elle se lève un peu comme somnambule. Elle arrive dans son salon, la caméra est derrière elle. Et elle est là, figée, et elle regarde son sapin comme s'il y avait quelque chose à côté du sapin. C'est cette espèce d'horreur. On a l'impression qu'il y a une ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Et elle regarde tellement quelque chose. C'est un peu comme quand les chats regardent un truc dans la pièce, t'es en bas, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Voilà. Et en fait, avec un truc hyper lourd, ça c'est la scène d'ouverture. Et on découvre ensuite donc dans l'histoire qu'elle a disparu, donc sa fille et sa petite fille viennent dans la maison, elle rencontre les flics et tout, elles sont en mode ils essayent de la retrouver,
kidnappée par Père Noël.
C'est pas drôle.
Oh.
Et il se trouve que à un tiers du film la mamie revient comme par magie, en fait, il la retrouve dans son jardin, mais sauf que quand elle revient, non, parce que
elle dit
se passe,
tout simplement,
en fait,
achète les Léales, elle s'était perdue, en fait.
Et à la fin, ça finit dans un EHPAD.
Mais arrêtez de vous moquer de mon film.
Tu vas spoiler un tiers du film.
Non, c'est pas du spoil. Tout commence au moment où la grand-mère revient, sauf qu'elle n'est plus
c'est
tout à fait normale.
Hein, c'est pas un tiers, c'est 10 minutes de film.
À 80 ans, c'est normal. Hein.
Ok, ça donne envie.
Ça
non mais c'est très bien.
Super envie, mais je prends trop note de ce que vous vendez trop bien les films. Là. Un pays qui se tient sage, Relique, Adieu les cons, j'ai trop envie de voir tout ça. Erwan, on passe à toi.
Erwan, camping,
on passe à toi.
Camping,
bon,
il y a deux films
que tu as mis aussi dont on a déjà parlé, mais
ouais,
forcément
il y a autonomité, ouais. Forcément.
Il y a le film.
Je vais commencer par Vegan.
Vegan, pas Vegan, c'est quoi le titre de cette merde ?
100% Vegan ?
Ah, bah si, tu sais, autonomité, il fait dans le simple. Hein.
100%
Vegan.
100% bio, je crois.
100% bio. Oh là là, putain. Le top 3 d'Erwan, à mon avis, le top 1 va vous surprendre. Reste avec nous.
Le top 3 d'Erwan.
Ouais, en effet. Fait Adieu les cons en troisième. En fait, ouais. En préambule, en fait, ouais, attends, je vais sortir ma petite citation que j'ai écrit dans Les Graviers du cinéma.
Très bon magazine.
Avec un bateau.
Vous pouvez me retrouver toutes mes critiques toutes les semaines. Erwan McGregor, c'est moi.
Erwan
McGregor. Oh,
fort de mon deuxième semestre raté niveau cinéma, je donne bien évidemment une place conséquente à la comédie dans mon classement, saupoudrée d'un soupçon de drame qui n'est pas sans rappeler le côté sombre de cette année 2020.
Ouais, c'est très gravier ça.
C'est très beau, c'est très
voilà.
Gravier. Donc
très, très
je fais honneur à la comédie que je porte très haut dans mon cœur. Donc troisième place, ouais, Adieu les cons, vous l'avez tous très bien présenté, enfin au moins deux d'entre vous. je trouve ça
Kevin,
cool quand
tu l'as un peu mal présenté.
Mais
un peu moins bien présenté.
Non, vous êtes que deux à en
avant. Oui, oui. Je rigole.
C'est ça la blague.
C'est ça qui est drôle. Donc ouais, Adieu les cons, et qui prouve que
arrête de le dire.
Adieu les cons.
Ou bye bye les moches aussi. C'est la suite.
Tchou les nazes.
C'est tchou les nazes. Tchou les nazes. C'est
la version Netflix. Je me suis trompé de salle.
Et en fait, les trois films de mon classement, ça prouve qu'en 2021, alors que justement le cinéma accélère et qu'en fait ça devient de plus en plus édulcoré parfois, en fait ça prouve qu'on peut encore faire des comédies un peu originales. Donc Dupontel peut encore faire du Dupontel, ça c'est cool parce que c'est voilà, on retrouve vraiment une comédie un peu noire, Voilà, mmh. la fin
avec des personnages en couleur.
La fin veut surprendre.
Mais voilà, enfin, numéro 17, faire ça encore, sur le cul. Une comédie noire comme ça, qu'on... c'est cool. Jojo Rabbit en deux.
Yes.
Parce que ouais, pareil, époustouflé quoi. Enfin, c'est à la fois tellement comique et enfin, je suis pas très film dramatique, mais quand on te l'enrobe comme ça, comme un petit bonbon là.
Dès qu'on l'enrobe avec du nazisme, c'est ton truc.
Un petit bonbon rouge et blanc.
Et en plus, il y a un de mes personnages préférés. Voilà, c'est ni le petit ni la mère.
Ah, qui est-ce? Le robot.
Le robot. Voilà, c'est le petit gros. Non et en premier donc un film dont vous n'avez pas parlé, King of Staten Island.
The King of Staten Island.
Judd Apatow. Je suis un énorme fan de Judd Apatow malgré tout ce qu'il a pu faire. Et justement,
c'est des livres.
Rédacteur en chef des graviers du cinéma.
Justement, hein. je trouve ça incroyable en fait que après Funny People au final qui est son seul vrai film acclamé.
J'adore ce film.
Son meilleur.
Le seul vrai bon film qu'il ait fait, parce que moi j'adore tout ce qui est comédie, qui partent n'importe comment, voilà, tous ces films avec Seth Rogen, bah, pour moi c'est du petit.
En cloque mode d'emploi, c'est, moi, c'est
moment,
aussi un
encore une fois, mais ouais. Ouais, mais voilà, on reste quand même dans les.
C'est un peu grave
le. Ça va être du Pineapple Express, ça va être tout ça, c'est un peu du.
40 ans toujours plus haut.
Pour moi c'est
ça.
Plus du Seth Rogen que du Judd Apatow.
Mais ça parle de quoi, King of Staten Island?
Alors, King of Staten Island, en fait, c'est l'histoire vraie, un peu romancée, je pense, de Pete Davidson, qui est un humoriste américain qui a percé avec le Saturday Night Live, notamment. Et en fait, c'est donc, l'histoire vraie, un peu romancée, de sa jeunesse. Donc, il a perdu son père, qui était pompier très tôt, pendant le 11 novembre.
Septembre.
Non, c'était un 11 novembre. C'était un 11 novembre 2003. Ah,
c'était le jour de l'armistice.
Il est tombé de l'échelle.
Le jour de l'armistice, c'était le dernier obus.
Oh la vache, pardon, je suis fatigué. Alors, ouais, non, pendant le 11 septembre. Ce petit bout d'homme là qui vient du. Enfin, que, d'ailleurs, qui n'est pas un bout d'homme en fait, qui est une grosse loque. Hein. On peut le dire qu'il est une grosse merde. Non, mais qui en fait.
Le mec, c'est Dwayne Johnson.
Qui se laisse porter, qui se laisse vivre, qui vit chez sa mère. Qui fait rien de ses journées à part
Tanguy
fumer
en puissance quoi. Sauf que Tanguy lui travaille.
Voilà, mais version américaine. Et du coup, donc ça dépeint un peu cette vie de Staten Island, qui est une petite île en face de New York, un peu comme le New Jersey, qui a cette réputation de
banlieue de merde.
Banlieue de merde, ouais, on peut le dire, c'est ça. Et donc de comment en fait, bah il reprend sa vie en main pour en fait faire ce qu'il aime quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il est touchant ce film. Je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu sur mon ordi, mais c'était très cool.
Très touchant et voilà, toujours comique. Ça, c'est un mec qui a une, tu vois, un peu à la Jim Carrey, qui a une tête, une gueule quoi.
C'est vrai. Du coup, top 1 pour The King of Staten Island. C'est vrai qu'après
très étonnant pour du Judd Apatow, parce que même par rapport à Funny People, là on est sur un level au-dessus encore.
Et toi Romain?
Alors
moi,
ton top
3, y a des films qui vont se répéter hein. En 3 j'ai mis Ex Aequo, parce que je leur ai mis 4 lunes.
Très bon film, j'ai adoré Ex Aequo. Il a fait son barème lunaire.
Ah mais c'est le dernier Antonente, non?
Je note en lune, j'ai d'ailleurs une rubrique.
C'est quoi
Ex Aequo?
C'est quoi Ex Aequo?
J'ai mis 4 lunes sur 5 à Jojo Rabbit et Light of My Life. Ouais, je mets des lunes.
Pourquoi tu mets des
lunes? Dans les graviers du cinéma, non?
Dans les graviers du cinéma, oui, page 55. Jojo Rabbit, Light of My Life, voilà, tout a été dit, quoi. Jojo Rabbit, magnifique, bouleversant, tellement d'émotions, c'est génial, c'est absolument génial. Light of My Life, pareil, intime, Casey Affleck. Qu'on découvre du coup là sous la casquette de réalisateur est impressionnant quoi. C'est puissant et puis ce duo entre la gamine et lui c'est fou, elle est dingue, ce film fera écho peut-être avec mon certainement avec mon top 1. En tout cas en 2 j'ai mis Drunk hein, pour toutes les raisons que vous savez évidemment.
Ah, what a life.
What a life.
Winterberg au sommet quoi. C'est un de ses meilleurs films, si ce n'est son meilleur en tout cas. Et puis Mikkelsen, on peut dire pareil. La recette de ce cocktail est très très bien gérée. Et en top 1, alors ça va peut-être vous surprendre parce que ce n'est pas forcément un film.
Ah putain, je sais ce que tu vas dire.
Mais c'est The Last of Us Partout.
J'ai un peu triché, parce que
c'est le meilleur film auquel j'ai joué en fait. C'est un film, on va pas se mentir, même si même si ça utilise le jeu vidéo pour faire passer tout ça. En tout cas, la mise en scène est digne d'une mise en scène de cinéma. La psychologie des personnages, le voyage qu'on nous demande de faire est à contre-cœur même parfois, c'est ça qui est assez fort, c'est qu'on fait des actions dans ce jeu qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais c'est là où veut te pousser Neil Druckmann avec ses personnages. The Last of Us Part 2, je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas fait.
Faites-le avant quand même, faites-le avant, évidemment, vous n'allez pas comprendre l'histoire.
Last of Us Part 2, c'est absolument génial, j'en ai pleuré.
Non, c'est vrai que c'est génial, mais moi je l'ai un peu exclu parce que c'était un jeu.
Bêtement, tu vois, je sais pas pourquoi, mais on est dans un podcast multiculturel.
Je l'ai mis 6 lignes sur 5 pour te dire.
Au final, c'est pas très différent de je sais pas, l'épisode interactif de Black Mirror.
C'est
une nouvelle façon de découvrir un film.
Il y a des jeux vidéo qui sont pensés pour être des films interactifs, tu vois, et Last of Us en fait un peu partie, c'est sûr.
C'est assez incroyable. Je sais pas comment vous en parlez en fait. Il faudrait que j'invente des adjectifs.
Il faudrait que t'invente des mots qui n'existent pas dans le dico.
C'est gros de gros.
C'est vraiment exubifiant.
C'était exubifiant. C'était bouleversifiant.
Et exfoliant. T'as perdu tous tes points noirs.
Non, mais c'est dingue.
Ils sont tombés d'un coup.
C'est vraiment dingue. Je vous dis, quand le jeu s'est terminé, en plus. On part bien 30 heures hein, sur 30 heures de jeu, c'est quand même assez conséquent. Ouais. C'est un bon gros
pâté. C'est un long film, quoi.
C'est un très très long film et tu explores deux facettes, deux personnages avec qui tu joues vraiment, quoi. Et ce sont les antagonistes, en fait, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est assez marrant de prendre ces points de vue-là et d'y être autant. T'es immergé, quoi. T'es en immersion totale avec ce film, avec ce jeu. Et c'est dingue, et quand ça s'est fini, j'ai explosé, quoi. J'avais les larmes, j'étais en sanglots tellement c'est
et très belle BO
bon.
Encore une fois de Santiago
de Gustavo Santaolalla qui en plus un grand compositeur qu'on a pu voir dans d'autres films comme Carnet de voyage par exemple.
Oh, j'adore ça.
Il tâte du charango.
Il s'appelle Olala.
Santaolalla.
Il a joué dans PNL. Gustavo Santiago Olala.
Santaolalla.
Olala, dégage ton pouce.
Si vous avez la chance d'avoir une PS4, PS5 et que vous n'avez pas du tout mis la main sur ces jeux-là,
vas-y,
Last of Us,
on va se faire ça.
Voilà, si on devait faire un top 3, à mon avis, sans vraiment de classement, ce serait Drunk, Jojo Rabbit et Adieu les cons.
Ah bah voilà.
C'est le classement.
C'est un beau top.
Fait à BA avec cette team-là, évidemment, parce que.
Et on n'oublie pas l'appel de la forêt.
Évidemment.
Quand même.
Il y a plein de choses bien.
Voilà, retrouvez ce top, évidemment, dans les graviers du cinéma. Prochain numéro à sortir, Arwan. Pour
le 29 février.
On peut faire une mention spéciale si tu veux.
29 février. La blague nulle. Bon alors, et puis nous, on va transiter avec un jingle improvisé là tout de suite pour savoir quelle est la
transite,
suite du programme.
C'est le transit.
Mais qu'est-ce qui se passe après
vers on ne sait pas quoi. Hein. Il était nul.
Mais non, il était parfait. On va en faire un autre.
Non, on peut pas refaire. On parle un peu de nous, ce qu'on va faire.
Là, je vais faire des courses.
Le cul en amande, dépêche-toi, il est bientôt 18h.
Mais toi, t'as envie de mettre ton cul en knacky ball en amande. Faut arrêter avec ton cul.
Ouais, moi, je ne peux plus là. 18h là, frère, c'est le moment où je suis chaud. Ils me demandent de rester chez moi. Ils sont fous, quoi.
Ouais, 18h, je deviens ouf.
Non, mais qu'est-ce qui se passe pour nous du coup? Faut qu'on s'adapte. Déjà, on a mis beaucoup de temps avant de reprendre les micros. Ouais. Pourquoi? Parce que plein de choses. Hein, ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. On fait ce qu'on veut.
Ça ne vous regarde pas.
On vous dira pas.
Attendez. Vous croyez qu'on va tout vous dire comme ça?
Ok,
tout.
J'ai eu la tuberculose, mais c'est pas la seule raison, ok?
Ok, bon.
Et le calculateur, il est devenu quoi?
Bah, pour l'instant,
il est au garage.
Il n'est pas sorti là.
À cause des pénuries de cartes graphiques,
il
marche plus.
Il va être vénère. En tout cas, il doit compter des choses, des trucs.
Il faudra le dépoussiérer, quoi.
Il compte les grains de poussière qui tombent sur lui.
On est 3 028 000. On est en train de lui installer une puce de 5G.
Alors là, c'est moi qui imitais le calculateur.
Mais putain, mais tu l'imites trop bien.
C'est pas pareil que quand lui parle au Caire.
Ah, mais je l'ai pas amené là, il pesait trop lourd.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, on va retrouver le calculateur. Nous, on va se concentrer sur des films VOD. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. De toute manière, tant que les salles de ciné sont pas réouvertes. Donc, du coup, ça nous donne un programme qui est un peu bisextile.
Il est
un peu bizarre.
Il est un peu dilettante.
On ne pourra pas vous annoncer ce qu'on va faire.
Il est un peu le programme.
Il faut inventer d'autres mots. Il est coulougou.
Il est coulougou.
Non, mais bon, on va se concentrer sur la VOD. Il y a des films qui vont sortir. On a vu notamment dernièrement des BA qu'on a envie de faire.
Ouais.
Clairement. Alors, il y aura
quoi,
pas de... On va donner chacun une BA qu'on a envie de faire. Moi, j'ai vraiment envie de faire la BA de Raya, le prochain Disney.
Raya.
Parce que j'ai rien compris. Et j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai rien compris.
Non, mais j'avoue, moi, j'ai rien compris non plus, à part. C'est joli.
Il y a l'air d'avoir 36 films dans un film.
Okay.
Donc, puis bon, c'est très joli. Hein, c'est très Disney, c'est très machin et tout.
Ouais, c'est beau.
Quoi d'autre?
Moi, j'ai vu une BA que je voudrais trop qu'on fasse. C'est le prochain film des studios Ghibli qui est en 3D.
Ah oui, les studios Ghibli.
Ah ouais. Non, mais ça va être intéressant.
Attends, on est d'accord que c'est le producteur de Adi ou Adibou qui a fait ça.
Non, mais tu vois, et c'est pour ça qu'il faut qu'on la fasse.
Ça ferait un super épisode.
C'est pour
ça
qu'il faut qu'on la fasse. On n'a jamais parlé de Studio Ghibli et en plus, ben.
Et puis c'est Ghibli qui passe à la 3D, c'est intéressant.
Oui, bah ouais, je suis chaud. Aya la petite sorcière.
Moi, je veux faire un film qui est sorti.
Aya et la sorcière, pardon, pas du tout.
Je veux faire Malcolm et Marie. Il paraît que c'est trop bien.
Sérieux? Ah ouais.
Il paraît que c'est trop bien.
Il paraît que
ah,
c'est
le
trop
noir et blanc,
bien. Hein. Il paraît, on remet Paris en bouteille. Hein.
Non,
il
mais
paraît.
C'est le réel de Foria. J'ai trop confiance.
Non, mais de toute façon, il y a une règle, c'est que s'il y a quelqu'un qui casse les codes et qui sort un film en noir et blanc et que derrière, il y en a un qui fait exactement la même chose, c'est que ça va être de la merde.
Non.
Mais si.
C'est dans les graviers du cinéma, ça.
Bah oui. Pas 55.
Mais moi, je le lis pas, ton
ça,
magazine.
C'est une théorie, ça. Ça, c'est une théorie.
Non, j'aimerais bien le faire.
Ok.
Ok. Marie et pardon.
Malcolm et Marie avec Jean David et Zendaya.
Ou autrement appelé M&M's. J'ai le titre.
C'est vrai.
J'ai le titre.
Titre de travail M&M's.
Titre de travail.
Il a déjà le titre.
Chier. Il a même pas fait ton titre qu'il a déjà gagné. C'est dingue ça. Toi, t'aurais envie de faire quoi, toi, Kevin?
Alors moi, j'ai envie de faire un film pour qu'on rigole. Ah, j'ai envie qu'on fasse Godzilla 3.
Ah oui, ça va être des barres,
Parce que franchement,
ça existe, ça sort.
Dans cette BA, c'est Godzilla versus Kong. Dans cette BA, il y a un plan. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais on fait un arrêt sur image, mais ça, je veux en poster. C'est incroyable.
C'est quoi?
Ah non, je vous dis pas.
Ah non, dis pas. En plus, j'ai toujours pas vu.
Ah, ça tire.
Je me la réserve.
Il y a un plan, il est incroyable, mais je sais pas qui a validé.
C'est sûr qu'on va se la faire parce qu'on avait déjà tapé des bonnes grosses barres sur Godzilla 2. Épisode combien, Clément?
12.
Mais bah pas du tout. C'était l'épisode 5. Bravo.
Oui, on l'a fait très tôt. Cette merde.
Avant, j'ai gagné tout le temps.
Donc ouais, je pense qu'on va se le faire, Godzilla vs Kong. Là.
Bah oui, vous le verrez.
Un film très Kong.
Ça pue tellement du cul ici.
Un film très Kong, bah, c'est la catchphrase.
On est en ébullition, on a envie de faire tous les épisodes.
Un film plutôt banane.
Bah viens, on lance. On regarde toutes les BA, on fait la suite là, on a le choix.
Et toi, Erwan, qu'est-ce que t'as envie de faire? 100%
bio. 100% bio. 100% bio, Camping 4. Camping 4 qui normalement était prévu en 2021.
Qui est la suite de Camping Car.
Ouais. Qui a un mix avec Disney parce qu'ils ont fait Cars
et
Camping Cars.
Il y a aussi Camping Kart
avec
Camping
Kart
sur Nintendo Switch.
Okay. Voilà. Ah oui. Va falloir qu'on arrête là.
Camping Kart.
Non mais en tout cas
retrouvez-nous dans 4 mois, hein, on va faire une pause.
Autant dire si tu nous écoutes, il y a beaucoup de choses à faire encore dans l'univers camping. Le camping universe n'est pas fermé.
Le camping universe, ouais.
Bon,
on fait des bisous.
Voilà, c'est toujours autant le bordel.
C'était cool de vous
attention,
retrouver.
Les gestes barrières.
Oui,
on rappelle,
déjà
les gestes barrières, c'est toujours être éloigné de 2 mètres des gens et se laver les mains. Et surtout, porter 2 masques.
Deux masques.
Oui, parce qu'ils ont dit il y a pas longtemps qu'un masque ça suffisait pas parce qu'il y avait des trous sur les côtés.
Ah oui.
Et du coup, si quelqu'un touche derrière toi, genre. Bah, hop.
Alors. Porter la burqa, ce serait plus simple.
Ouais. Non, alors
devant,
ça, c'est un autre
derrière.
Débat. Oh là là, malheureux.
Islamo-gauchiste,
ça va pas ou quoi?
Allez. Nous, on se dit
au revoir.
Et à la semaine prochaine, peut-être.
Semaine.
La bouteille de vin, elle a fait des ravages.